Bonjour ou bonsoir, bienvenue dans Inventaire à l'après-vert, un podcast qui vous parlera de personnes, de leur histoire, des objets qui les racontent, qui vous parlera également de l'art, des arts, de l'éducation et de la pédagogie. Bonne écoute! Chères toutes et chers tous, en ce lundi 7 août, je vous espère tous en bonne forme. Alors, en ce qui me concerne, je vais bientôt mettre la clé sous le paillasson, remiser tous mes sabots, les roses pailletées, les jaunes, les oranges et les très vieux rouges, et refermer la porte de mon cabinet d'Armen pour partir un petit peu voir si ailleurs l'herbe est plus verte. Alors maintenant, à l'âge qui est le mien, je sais que l'herbe n'est jamais plus verte ailleurs. En fait, l'herbe, on l'emporte avec soi. Alors, la dernière fois, je vous ai parlé d'anthropologie, je vous ai livré ma vision horizontale et non verticale du vivant, comment je suis absolument persuadée que l'homme pourra peut-être continuer à vivre sur cette terre s'il arrive à considérer qu'il n'a pas été le premier habitant, que toutes sortes d'espèces ont préexisté à lui, que donc certainement il a d'ailleurs fallu qu'il ait toutes ces espèces pour qu'il puisse un jour lui-même exister. Et je pense que tant que l'homme restera le nombril du monde, eh bien malheureusement on ne s'en sortira pas. Et ce qui me désole un peu, c'est que j'ai le sentiment que beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de personnes encore sont totalement auto-centrées et continuent de se situer au sommet de la pyramide du vivant. Alors j'avais envie de vous laisser pendant peut-être au moins 2 semaines sur une note humoristique. Alors j'ai été farfouillée dans mes vieilles archives et comme on parle énormément de yoga. En fait, j'ai eu entre les mains, il n'y a pas si longtemps que ça, un numéro de Télérama. La une évoquait le yoga, qui maintenant est en passe de devenir l'activité la plus pratiquée à l'échelle mondiale. Des yogas, il y en a de toutes sortes. Et donc, je voulais vous parler du yoga, de la manière dont il est rentré dans ma vie, de la manière dont j'ai été amenée à le pratiquer. Et ça croisera aussi un petit peu la sophrologie. Alors je vais pour ça revenir à cette fameuse chronique qui est ancienne, hein, puisqu'en fait je l'ai écrite très précisément le 19 mai 2009. Et je me rappelle parfaitement que je l'ai écrite en m'amusant beaucoup, parce que je l'avais aussi illustrée. Bon, toutes les illustrations ont disparu lorsque le Courrier International a cessé d'héberger des gens comme moi. À ce moment-là, j'ai dû basculer sur une autre plateforme. En fait, c'est OVH qui m'héberge maintenant depuis plusieurs années. Et à la faveur de cette bascule, toutes les illustrations de mes chroniques ont disparu. Alors, j'essaie parfois de consacrer un peu de temps pour les illustrer à nouveau, mais c'est long, fastidieux. Je n'ai pas forcément d'ailleurs conservé toutes les photos. Et puis, maintenant, c'est vrai que la plupart du temps, j'utilise mes propres photos pour illustrer mes chroniques, car il m'est arrivé par le passé d'avoir des difficultés avec une personne qui revendiquait des droits sur une photo. J'avais pas fait attention, j'étais vraiment de toute bonne foi, mais voilà, c'était assez difficile et c'était un rapport, il y avait beaucoup d'agressivité et puis surtout derrière un désir aussi de récupérer de l'argent. Donc maintenant, dans la mesure du possible, j'essaie toujours d'illustrer mes textes avec mes photos, qui sont d'une qualité pas forcément la meilleure, ou sinon des photos beaucoup plus jolies de Stéphane. Voilà, donc en fait, je vais vous lire cette chronique, j'espère qu'elle va vous amuser, les photos vont manquer, j'essaierai peut-être de vous expliquer ce que j'avais mis pour illustrer mon propos, que je voulais léger, parce que je voudrais momentanément vous quitter sur cette note légère. Si vous avez suivi mes aventures précédentes, avec le sérieux qui s'imposait et que vos neurones sont aussi bien huilés que celles de Sharon Stone, vous devez vous rappeler qu'à l'âge de 20 ans, je découvrais le grand amour. Je tombais amoureuse, et le verbe est finalement bien choisi, car en effet la chute fut brutale. Vous me direz que tout ceci est, pour une toute jeune adulte de 20 automnes, d'une banalité affligeante. J'en conviens, mais, et sans vouloir faire culpabiliser rétrospectivement celui qui devait m'infliger cette cruelle déception et faire passer mes pensées du bleu céleste au noir cauchemar, mon pauvre cœur était désormais marqué, comme l'est l'érable, par l'entraille de la hache du bûcheron canadien. À 20 ans, le cœur est tendre, comme une petite pousse printanière. Ensuite, bien sûr, on continue de souffrir, le cœur est encore malmené au fil des cristallisations stendhaliennes, mais la brûlure est différente. Comme un grand nombre d'amoureuses, ma soif de l'autre était sans limite. Pour atteindre un degré de complicité absolue, il fallait donc que toutes ces passions deviennent miennes pour que nous échangions comme si nous en étions déjà à fêter nos noces d'or. Je ne devais pas avoir perdu tout sens commun puisque je ne m'essayais quand même pas aux arts martiaux les plus violents. Ni même aux jeux de go, j'ai horreur en fait des jeux de société, je n'aime pas les jeux de stratégie, les jeux de cartes, alors ça c'est pas possible pour moi. Et je crois que les seuls jeux auxquels j'ai joué, c'était le Cluedo, le Monopoly comme tout le monde. J'aimais bien un jeu de dés qui devait s'appeler le Boggle. Il s'agissait de trouver des mots en un temps, en une minute, le plus grand nombre de mots. Et puis avec les enfants et ma sœur, nous avons beaucoup joué au Yahtzee aussi. Je décidais de limiter mes expériences physiques au yoga, dont j'ignorais tout. Il ne s'agissait pas de yoga tantrique, donc je découvrais l'existence sur le tard, et dont les positions magnifiquement sculptées dans la pierre des temples hindous permirent aux royaux sujets de la couronne britannique de faire, ou parfaire, leur éducation sexuelle. Mais d'un yoga très pur, pratiqué à domicile, par un yogi qui, dans mon souvenir, ne parlait que l'hindi et l'anglais et devait vaguement ressembler à Salvador Dali. Il avait vraiment tout de l'ascète, tel que nous en rencontrerions, mon mari et moi, en Inde et au Népal, lors de notre long périple autour du monde. Les cours étaient dispensés en semaine, le matin. Ils avaient lieu dans un salon si vaste que nous nous y sentions perdus. Nous étions étendus sur des tapis. Des femmes, peintes par Elisabeth Louise Vigée-Lebrun, nous observaient et je me demandais ce qu'elles pouvaient bien penser de cette bande étrange, constituée pour la plupart de femmes américaines. Comme la veille, je m'étais généralement couchée fort tard, j'avais toutes les peines du monde à me concentrer sur les postures ordonnées par le maître. Je luttais pied à pied pour ne pas me ridiculiser tout à fait aux yeux bleus de celui qui justifiait ma présence matinale et aussi pour ne pas sombrer dans un sommeil profond et sans doute paradoxal. Cette expérience ne dura pas, car je n'étais pas encore mûre pour le yoga. Je préférais courir, danser, nager ou bien encore muscler mes bras avec mon code civil et mon code du commerce, utilement recyclé en alter. Bref, dépenser ma trop grande énergie différemment plutôt que d'apprendre à la canaliser et à me détendre en profondeur par une saine maîtrise de mon souffle. C'est bien des années plus tard que j'y suis revenue. Et maintenant j'adore ça. Au bout de quelques années d'une pratique régulière, c'est vraiment tout l'être qui se modifie. Depuis que nous habitons sur le plateau, perdu au milieu des champs de maïs, de blé et de colza, je pratique le yoga dans l'une des salles municipales d'un tout petit village. Nous sommes moins d'une quinzaine par groupe et nous comptons dans nos rangs un seul homme qui se trouve être le maire du dit village. Le professeur Géraldine pratique un yoga qui ferait hurler les puristes puisqu'aux postures traditionnelles se mêlent des exercices employés en sophrologie, en pilates et même des techniques empruntées aux ateliers de théâtre pour apprendre à avoir confiance en l'autre. À chaque séance, à la fin, au moment de la relaxation, l'un des yogis amateurs s'endort tout à fait et même se met à ronfler. La preuve que le professeur est bon et que la séance a porté ses fruits. Jusqu'à ce jour, le meilleur professeur que j'ai eu était une vieille dame anglaise répondant au doux prénom de Beryl. Elle soignait autant le corps que l'esprit. J'ai suivi son enseignement, car cela en était vraiment un, lorsque j'étais enceinte de mon deuxième enfant. C'était dans le Gard. En fait, ça, c'est vraiment ma première... Enfin, plutôt non, pas ma première, parce que la première, c'était à Paris, mais ma deuxième rencontre avec le yoga, et je regrette de ne pas avoir pu continuer, parce que cette femme, qui à l'époque devait avoir, 80 ans, était une femme extraordinaire. Si vous en êtes d'accord, je vais vous livrer. Plutôt, je voudrais livrer avec vous une expérience consistant à vous prouver les bénéfices d'une pratique régulière du yoga. Avant toute chose, ce serait merveilleux si vous écoutiez une musique douce. La lama bassong des Doors ne me semble pas le choix le plus judicieux. Rien de tel, en revanche, qu'une musique d'ambiance avec chants d'oiseaux, ressac des vagues et bruissement du vent dans les arbres. Vous allez commencer par détendre le haut de vos épaules et faire de petits cercles avec votre cou. Ensuite, vous étirerez vos bras au-dessus de votre tête en les passant sur les côtés. Redescendez-les en soufflant longuement, très longuement, comme si vous vouliez expirer jusqu'à la dernière bulle d'air de vos poumons. Si vos jambes sont croisées, décroisez-les. Posez vos pieds bien à plat sur le sol et tirez votre colonne vertébrale, comme si vous aspiriez à toucher le plafond avec votre crâne. Bien sûr, c'est une image. Quand vous commencez à vous sentir un peu relâché, imaginez une très belle plage. Alors j'ouvre une parenthèse parce qu'entre-temps je suis devenue sophrologue, ça fait quand même maintenant 15 ans que je pratique. À l'époque je ne l'envisageais même pas et je crois avoir raconté dans peut-être l'un des premiers épisodes comment j'ai rencontré la sophrologie. C'était sur une plaque en cuivre placée à l'entrée d'un très très bel immeuble dans la Loire, dans la ville de Montbrison, et il y avait marqué sur cette plaque en cuivre « Sophrologie caïcédienne ». Et souvent, le soir, notamment en hiver, montaient de l'appartement qui était en dessous de celui où nous habitions des bruits bizarres, mais vraiment très très bizarres. Et je me demandais vraiment si cette sophrologie caïcédienne n'était pas en fait ne regroupait pas les adeptes d'une secte bizarre, vraiment bizarre. Voilà, c'est comme ça que plus tard j'ai su ce qu'était la sophrologie caïcédienne et que cela venait eh bien, d'Alfonso Caicedo. Donc je reviens à mes histoires de yoga, où je disais qu'en fait, que j'avais employé le terme de relâcher, et que c'est un terme que je n'emploie jamais, jamais, jamais pendant la relaxation qui est indispensable en sophrologie pour atteindre un état de conscience modifié, car lorsque vous utilisez le terme de relâcher, pour beaucoup de femmes, cela signifie peau flasque, peau qui dégouline. Le mot relâchement n'a pas du tout une connotation positive, donc je l'ai totalement banni de mon vocabulaire de sophrologue. Donc lorsque vous êtes bien détendu, imaginez une très belle plage, prenez celle de votre choix. La mer ou l'océan qui la baigne n'ont aucune sorte d'importance pour le bon déroulement de l'exercice. Alors j'écrivais en 2009 que je choisissais la plage de Palolem dans le petit état de Goa, située dans le sud de l'Inde et dont le sable est mouillé par les vagues de la mer d'Oman. J'écrivais qu'elle me plaisait énormément, surtout quand elle était désertée par ses hordes traditionnelles de touristes pour cause de 11 septembre 2001. En fait, maintenant, si je devais à nouveau m'imaginer au bord d'une mer, sur une plage, eh bien ce serait l'immense plage de l'île Tudy, dans le Finistère sud. Et je m'imaginerais sur cette plage le matin, me promenant, comme je l'ai fait des dizaines de fois, avec Fantôme, dans le bruit des vagues. À cette heure-ci, la mer est très calme et on voit les pêcheurs qui viennent relever les filets. Il y a des mouettes, ça sent le varech. Voilà, c'est plutôt là que j'irai, je pense, maintenant, pour me détendre. Une fois que vous avez localisé mentalement votre plage favorite, vous vous étendez sur le sable. C'est la raison pour laquelle je m'empresse de vous déconseiller les plages de galets ou de sable grossier, de même que les étendues atlantiques couvertes de varech et autres algues gluantes et odorantes. Donc vous voyez, ça va exactement à l'encontre de ce que je viens de dire, mais là je m'imaginais plutôt marcher et non pas m'allonger. Si vous n'avez pas envie d'abandonner votre corps directement sur le sable, pas de problème. Sortez une natte acétique ou une serviette éponge moelleuse à souhait. Détendez tout votre corps du haut du crâne jusqu'au doigt de pied, en passant par la mâchoire, la langue, les fesses. Pour le nombril et le lobe d'oreille, il faut véritablement un certain entraînement. On y arrive. Et sentez que tout votre corps s'enfonce dans le sable. Quand vous êtes parfaitement installé, imaginez une bouteille. Alors quand j'avais posté ma chronique, j'avais mis la photo d'une bouteille qui a disparu. Mais je pense que j'avais dû mettre, par exemple, une petite bouteille d'un rosé de Côte de Provence, ou peut-être un vin blanc alsacien, ou peut-être encore, pour ceux qui aiment les alcools forts, un vieux rhum. Et ensuite, j'avais dit non, 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 pas celle-là, repoussez cette image, pensez plutôt à celle-ci. Et là, j'avais dû mettre une bouteille du style de celle qu'on jette à la mer, assez neutre, sans étiquette, transparente. Vous la remplissez de toutes les pensées qui tournent en boucle dans votre tête et qui bloquent vos énergies. Quand vous vous en êtes débarrassé, vous refermez la bouteille et vous la jetez à la mer. Vous la voyez flotter et s'éloigner de plus en plus loin à la faveur des vagues et du courant. Puis, vous ne la voyez plus. Elle a disparu. Vous appréciez ce moment. Quand vous vous sentez prêt, vous bougez les extrémités de votre corps lentement, vous étirez vos bras et vos jambes, vous écartez vos doigts, vous grimacez et enfin, vous ouvrez les yeux. Si vous n'êtes pas parvenu à laisser partir la bouteille, pas de panique. Cela m'arrive très régulièrement. Ceci dit, la bouteille est parfois si remplie que je m'étonne qu'elle ne coule pas directement à pic. Les cours de yoga en tout genre, ayant fleuri aussi sûrement que les boutons sur le corps et le visage d'un enfant frappé par la varicelle, soyez vigilants avant de vous lancer. Certains m'ont rapporté leur pratique d'un yoga dans des conditions extrêmes. Il s'agit de réaliser des postures dans une pièce où règne une température avoisinant les 40 degrés. Les exercices deviennent périlleux tant le sol est glissant. Cette forme de yoga, pratiquée en zone artificiellement tropicale, aurait pour vertu première de permettre au corps de s'assouplir davantage. J'ai oublié de demander aux inconditionnels de ce yoga, qui fait économiser un aller-retour Paris-Madras en période de mousson, et d'éviter de respirer l'air vicié des terminaux d'aéroports internationaux en pleine pandémie de grippe porcine devenue mexicaine, pour complaire à la filière porcine avant d'être baptisé A ou H1N1 pour calmer les Mexicains, et faire plus « le virus est sous contrôle, le vaccin est pour demain », si les sangsues fréquentes en zone chaude et humide étaient elles aussi au programme. Je me rends compte en relisant cette phrase qu'elle n'a absolument plus aucun sens, mais ce n'est pas très grave, je pense que vous en avez compris le sens général. Et donc en fait, je concluais ma chronique en me disant que peut-être la pratique régulière de ce yoga me permettrait d'atteindre les 90 ans dans un corps resté souple, en n'ayant pas perdu l'équilibre. Alors ça fait très très longtemps maintenant que j'ai renoncé au yoga, que je pratique régulièrement, presque à chaque séance, la détente totale du corps avec mes patientes et mes patients, qui me permet donc d'atteindre cet état de conscience modifié qui va permettre ensuite d'appuyer sur les bons boutons et de permettre la réparation là où elle doit avoir lieu, la transformation. Je ne pratique plus le yoga, mais j'espère malgré tout pouvoir arriver à un grand âge en n'étant pas trop cabossée. J'ai récemment vu des documentaires qui m'ont énormément plu, que j'ai partagé dans des posts sur différents réseaux sociaux et que je vous invite aussi à regarder. Alors, il y en a un qui s'appelle Suzanne, jour après jour, et qui raconte le quotidien ascétique d'une Vosgienne qui fut professeure de mathématiques, l'aînée d'une fratrie de 10 enfants. Tous sont encore en vie, seul manque un frère. Et donc Suzanne a fait le choix, lors de la retraite arrivée, de retourner s'installer dans la ferme qui fut celle de ses grands-parents, de ses parents, ferme dans laquelle elle a vu le jour. Et elle y mène une vie très très simple. Elle a une turbine qui lui sert à alimenter la maison en électricité, c'est du 110 watts. Elle utilise l'eau de manière très parcimonieuse. C'est une femme qui vit très simplement, qui n'a pas d'animaux, ce qui m'a beaucoup déconcertée. Suzanne a de l'animal, une vision du chien, la vision qu'on avait beaucoup autrefois dans les fermes. C'est ce que me racontait Muguette quand j'allais la voir. Les chiens ici étaient accrochés à une chaîne Ils tiraient les malheureux sur leur chaîne. Ils étaient là simplement pour assurer la protection de la ferme. On leur balançait des vieux restes de nourriture. Voilà, il n'y avait absolument aucune interaction entre ces chiens de ferme et ceux qui vivaient à l'intérieur. Ou alors c'était des chiens de chasse qui étaient dans des chenils. Rares étaient les personnes qui entretenaient avec les chiens une relation tendre, affectueuse. C'était vraiment des animaux de travail, comme les chats. Dans toutes les fermes, il y avait des chats, et les chats, ils étaient là pour empêcher que des rongeurs aillent s'installer dans les céréales. Et c'est pareil, hein, c'est à peine s'ils pouvaient rentrer dans les maisons. Donc on a Suzanne qui mène cette vie ascétique. Et puis, il y a un autre documentaire que j'ai beaucoup aimé, en fait, que j'ai préféré, et qui raconte, lui, la vie de Lioubov. Alors, Lioubov, ça veut dire amour en russe, qui est cette femme qui a 82 ou 83 ans, qui est une grand-mère qui vit sur les bords du lac Baïkal et qui adore patiner. Donc, en fait, elle aime, ce qui la rend vraiment heureuse, c'est de pouvoir chausser ses patins rudimentaires et de s'élancer sur le Baïkal. Elle parle de ce lac avec énormément d'amour, elle raconte sa vie dure, on la voit couper son bois en plein hiver, chercher ses vaches qui se sont éloignées à la jumelle. Elle a des animaux, elle est heureuse quand ses enfants et petits-enfants viennent lui rendre visite. Je me suis demandé comment elle faisait pour avoir des géraniums dans son salon. Et quand elle coupait son bois, ça m'a fait penser à Muguette, qui durablement, jusqu'à ce que sa mauvaise vue l'en empêche, couper ses bûches sur son bio avec une force spectaculaire. Et qu'il s'agisse de Suzanne, qu'il s'agisse de Lioubov, elles ont en commun d'avoir gardé des corps très solides. Alors Lioubov a tout le haut du corps qui se penche, ça doit énormément la gêner. C'est pas du tout le cas de Suzanne qui se tient, qui a un dos extrêmement droit, qui est une grande femme, fine, tout en muscles, hein, c'est ce qu'on imagine. Ou Muguette, hein, qui ne voit quasiment plus. Donc Suzanne est des trois, celle qui arrive à l'âge de 91 ans, en voyant bien, en pouvant faire des mots croisés, en entendant bien, en conduisant sa voiture, en étant alerte, en descendant dans sa cave par un escalier excessivement dangereux. Voilà, et ça, il faut reconnaître que quand on a cette chance d'arriver dans le grand âge en n'ayant pas de douleur, en n'ayant pas les mains, les doigts déformés par l'arthrose, en n'ayant pas des douleurs dans les cervicales, en n'ayant pas des mauvais pieds, en n'ayant pas mal aux genoux, en entendant, en voyant, en pouvant conduire, c'est extraordinaire. Et on peut vivre comme ça à l'infini. Voilà, j'espère que mon petit épisode vous aura amusé. Je ne sais pas si vous pratiquez le yoga ou si vous avez l'intention de vous inscrire comme beaucoup de personnes à la rentrée. En tout cas, vous pouvez toujours retrouver dans une médiathèque un des derniers numéros de Télérama qui fait le tour de cette activité, qui s'en moque un peu, qui montre qu'il y a quand même aussi beaucoup de recherche d'argent, ces tendances. Le yoga est vraiment un créneau extrêmement tendance. On peut le pratiquer à la carte dans un nombre incalculable de salles dans les grandes villes. Et il s'est quand même beaucoup éloigné de ce qu'il était au départ. Et quand je vois passer sur Instagram ce qui est censé parfois être du yoga, ça ressemble plus du tout au yoga que j'avais pu pratiquer quand j'avais 20 ans, que j'ai redécouvert quand j'étais enceinte de Victoire, et que j'avais aussi pu pratiquer ici avec un professeur de danse et de yoga. Voilà, c'est très éloigné tout ça. Mais bon, peu importe. Ce qui compte surtout, je pense, au-delà du fait que c'est une activité qui permet de conserver de la souplesse et de l'équilibre, c'est de s'amuser. Et nous, quand on se retrouvait dans notre petite salle municipale avec Géraldine, on riait beaucoup. Et finalement, la détente vient aussi beaucoup de ça, de cette capacité qu'on a à former un bon groupe, à bien s'entendre, à ne pas être dans le jugement, à ne pas s'observer, à être bien, être là pour passer un bon moment. Eh bien, je vais vous souhaiter une bonne après-midi, une bonne soirée, une douce nuit. Et je vous retrouve maintenant, la semaine du 28 août. Merci de m'avoir écoutée.